travaille dans la mode et ce sujet m'a intéressée beaucoup et m'a touchée. Je ne suis pas du tout chercheuse et je ne suis pas du tout dans cette posture. Je viens pour vous, plus vous raconter l'histoire qui est vraiment une histoire très étonnante et extraordinaire et qui est un sujet qui est vraiment au confluent de plusieurs domaines qui sont des domaines à la fois touchants, émouvants et extrêmement actuels. Puisque on va voir que ça concerne à la fois la mode, évidemment, avec la maison Saint-Laurent, la religion avec la Vierge del Rocio, l'histoire de France, puisque cette Vierge se trouve dans une chapelle qui appartient à la famille d'Orléans, la sociologie, puisqu'on est dans les années 85, en plein dans les années SIDA, l'Espagne, évidemment, et les États-Unis, enfin, puisque le Metropolitan Museum accueille cette exposition sur la mode et la religion, qui a été l'occasion de la redécouverte de cette robe grâce à une personne qui est dans la salle. Alors, c'est l'histoire d'une robe qui a été faite dans l'intimité, qui est sortie de l'oubli. Moi, j'ai été sollicitée pour faire le lien en fait entre la paroisse, qui ne comprenait pas exactement la valeur de cette robe qu'ils avaient depuis un certain temps dans leur placard, et la Fondation Saint-Laurent pour parvenir à prêter au Metropolitan Museum cette robe pour l'exposition qui s'est ouverte donc à New York début mai et qui est intitulée Heavenly Bodies. Je vais essayer rapidement de vous raconter l'histoire. En 1842, Louis-Philippe démarre la construction d'une chapelle commémorative de style néo-byzantin, porte-maillot, à l'endroit même où son fils, le duc d'Orléans, qui est l'héritier du trône, avait été tué d'un accident de calèche quelques mois plus tôt, le 13 juillet, à l'âge de 32 ans. Cette chapelle est déplacée pierre par pierre en 1974. Elle est toute petite, cette chapelle, à l'époque, lors de la construction du Palais des Congrès. Et à cette occasion, on construit en dessous une grande crypte, ce qui permet au cardinal Lustiger de l'ériger en paroisse le 31 octobre 1993, sous le vocable de Notre-Dame de la Compassion. Elle est dédiée à la prière contre toutes les violences, puisque effectivement le duc d'Orléans avait été mort d'une mort violente, dont celle du duc, et ses murs appartiennent donc à la famille d'Orléans. En 1983, il y a un acteur majeur de cette histoire qui apparaît, c'est le père Ducan, qui est nommé prêtre dans cette paroisse par Mgr Lustiger, et le comte de Paris révèle au père Ducan que sa grand-mère vénérait la Vierge de Séville, que l'on invoque pour toutes ces questions de mort violente, la Vierge del Rocio, et il demande au père Ducan de ramener une réplique dans la chapelle. Donc voilà, le père Ducan s'exécute. À l'époque, on est en plein dans les années SIDA, et Yves Saint-Laurent voit à cette époque nombreux de ses amis disparaître d'une mort particulièrement violente, comme d'autres créateurs. Et à l'époque également, cette crypte, la crypte de cette chapelle, était un lieu de rendez-vous de l'association AIDE, qui avait créé sur place une cellule de formation à l'accompagnement des mourants, ce qui est raconté très bien dans le livre de Raphaël Baquet, Ricci. Elle fait allusion à cet épisode. Donc, le père Ducan part pour l'Espagne et il commande une tête de la Vierge qu'il ramène à Paris. Mais il faut orner et parer cette Vierge. Jean-Louis Ducan va alors contacter Yves Saint-Laurent qu'il ne connaît pas. Il appelle la maison et il demande à parler à Yves Saint-Laurent de la part du comte de Paris. On lui passe un monsieur auquel il raconte son histoire et qui lui dit à la fin: Monsieur Saint-Laurent est à côté de moi, il a entendu notre conversation, quand pourriez-vous venir nous rencontrer? Cet homme, c'est Pierre Berger, et Jean-Louis Ducan lui répond tout de suite. Il met la tête dans un sac et part en mobylette avenue Marceau. Quand il arrive dans le studio d'Yves Saint-Laurent, il pose la tête en bois de Santal sur la table de travail et lui dit: vous êtes celui qui sait le mieux habiller les femmes, pourriez-vous habiller ma Vierge? Yves Saint-Laurent lui répond: considérer tout ça est véridique, puisque le père Ducan est toujours vivant et qui nous a raconté ça. Yves Saint-Laurent lui répond: considérer à partir de maintenant qu'elle sera ma meilleure cliente, je prends charge tous ses habits et je la confie à Monsieur Gaby, mon premier d'atelier. Voilà, c'est ainsi que donc est créée la première tenue de la Vierge de Notre-Dame de la Compassion. La confection de la robe, du manteau et du voile a été confiée donc à l'atelier Gaby et à Monsieur Hector Pasquale, en charge alors du patrimoine de la maison de couture et également costumier de théâtre. La confection de la couronne, alors je vais essayer de vous passer, voilà, là on voit un petit, voilà, la confection de la couronne et des bijoux est confiée à la maison Goussens, choisie par Yves Saint-Laurent, qui dit: je travaille avec un bijoutier, si vous avez besoin de bijoux pour la Vierge, demandez-moi. Voilà, c'est ainsi que commença l'histoire extraordinaire de cette robe. Cette histoire, elle a été assez peu médiatisée, elle est restée un dialogue intime entre la mode et la religion, et elle ressort donc en 2017, lors des recherches préparatoires à la grande exposition du Metropolitan Museum, sous l'impulsion d'Andrew Bolton, pour laquelle les archives des grandes maisons sont sollicitées sous l'influence de l'imaginaire catholique dans leur création. C'est une des responsables de collection d'Yves Saint-Laurent, qui s'appelle Laurence Neveu, qui se souvient de cette histoire, puisqu'elle a été une acteur majeure et qu'elle avait été en lien avec Hector Pasquale, qui lui avait raconté lui-même toute cette histoire. Voilà. Cette histoire extraordinaire révélée grâce aux Américains et aux recherches du Metropolitan Museum, par le biais de Laurence, permet de révéler un aspect nouveau du travail de M. Saint-Laurent, peu connu, et permet surtout en fait à la robe d'être protégée aujourd'hui grâce à une convention de dépôt qui a été signée entre le musée Saint-Laurent et la paroisse, et qui permet à la robe et qui garantit en fait à la robe d'être conservée maintenant dans les meilleures conditions et non plus dans un placard de la sacristie comme c'était le cas, dans un placard un petit peu, où elle risquait fortement de s'abîmer. Donc on sait de cette robe qu'elle a été exécutée donc par Monsieur Gaby, qui est malheureusement décédé depuis, sous la responsabilité d'Hector Pasquale, qui également n'est plus là, qui était d'origine argentine et de culture latine, et qui donc avait sans doute cette finesse pour savoir comment l'habiller. Il était le responsable de l'activité de costumier de scène d'Yves Saint-Laurent, dont les fameuses robes à plumes de Zizi Jeanmaire, mais je ne m'aventure pas sur ce terrain, puisque Laurence pourra vous en parler. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hector Pasquale et le père du camp s'entendent très bien tout de suite, ont des affinités, et donc ils vont très bien collaborer à la mise en place de cette, à la réalisation de cette œuvre. Le père Jean-Louis Ducamp connaît très bien la culture hispanique liée au culte de la Vierge del Rocio, qui est une vierge espagnole du sud de l'Espagne, qui a un culte très, très particulier, très mélangé entre la foi et le folklore. Et Hector Pasquale est aussi, de par ses origines sans doute. La période de création de la robe dans les ateliers dure environ 2 mois, d'après le père Jean-Louis Ducamp. Il vient très, très régulièrement pour voir comment cela évolue. Les plus beaux tissus sont choisis et adaptés à une statue. Et il fallait tout l'art d'Yves Saint-Laurent pour arriver si bien à réaliser cette robe et qu'elle épouse et mette en valeur la silhouette de la Vierge comme elle l'aurait fait de celle d'un mannequin de podium à l'époque, puisque cette statue fait en fait 1,80 m. On ne se rend pas bien compte. Je vais essayer de vous montrer des photos. Voilà la photo, le portrait à la chapelle et la tenue aujourd'hui au Met, dont vous avez dû sans doute voir des articles dans la presse. Il crée une allure à la fois extrêmement somptueuse et très féminine, comme il savait si bien le faire, et tout en conservant les codes de la véritable Vierge espagnole. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais vous montrer une photo. Voilà la photo. La photo au Metropolitan Museum, et donc elle a été extrêmement bien mise en valeur puisqu'elle est à l'entrée de l'exposition et qu'elle est une des seules robes dans l'exposition qui a été faite véritablement pour une œuvre sacrée, puisque le reste sont des inspirations catholiques pour des œuvres, pour des vêtements pour les femmes en fait. Donc voilà, c'est une œuvre en ça une œuvre extraordinaire. Voilà.
Je vais demander à Camille Kowalewski de nous rejoindre, qui va nous parler de sa thèse qu'elle a commencée cette année sur la maison Chloé, une histoire du prêt-à-porter couture.
Moi, je suis doctorante en première année en histoire de l'art à Paris 1, sous la direction de Pascal Rousseau. Je fais le parcours aussi théorie et pratique de la mode à l'IFM, donc j'en suis vraiment tout début de mes recherches. Auparavant, donc, j'avais fait un master 2 d'histoire de l'art avec un mémoire donc sur les costumes de ballet d'Yves Saint-Laurent. Et donc aujourd'hui, un sujet complètement différent, c'est un sujet que je fais en collaboration avec la maison Chloé, puisqu'elle m'apporte finalement son soutien et aussi me permet d'avoir accès à toutes leurs archives grâce en fait à un contrat CIFRE. Voilà, donc la maison Chloé est fondée en 1952 par Gaby Aguillon, vraiment aux prémices donc de l'avènement du prêt-à-porter, qui va finalement restructurer tout le système de mode, qui était basé sur trois fondements principaux jusqu'alors, donc la confection, la couturière particulière ou la couture à la maison et la haute couture. Et donc, mon premier axe de recherche va être évidemment le contexte dans lequel Chloé va s'établir au sein de ce secteur. Et donc, plus précisément, comment finalement étendre la création à la grande diffusion. Et donc, jusqu'au milieu des années 50, une des premières missions du prêt-à-porter va être de produire des modèles qui, disons, suivent ou presque décalquent les lignes et les silhouettes nouvelles imposées par la haute couture. Donc, c'est une conception du prêt-à-porter qui est encore très restreinte à une idée de ruissellement, d'une mode qu'on pourrait dire élitiste, qui va être adaptée ensuite aux classes moyennes. Alors, évidemment, la confection va s'y atteler, mais c'est aussi le credo des lignes boutiques qui vont s'ouvrir, des maisons de couture, et qui vont donner l'essence à un prêt-à-porter, mais dont finalement l'originalité et la créativité seront encore vraiment subordonnées aux collections de haute couture. Et donc, cette idée est illustrée, par exemple, avec cette publicité que j'aime bien pour Veil. Veil, qui est donc la première maison de confection, a lancé le terme de prêt-à-porter autour de 1947, terme évidemment inspiré du modèle américain, et qui va vraiment devenir une caution de modernité, notamment dans la presse féminine. Et donc, dans ces publicités, comme ça, on va retrouver ces notions de filtre, de tamis, d'adaptation. Donc, vraiment, l'idée, c'est de gommer, entre guillemets, les extravagances des grands couturiers et, par là aussi, gommer, finalement, leur audace et leur touche. Alors, à la même période, là, il y a une jeunesse qui va évidemment aussi refuser les dictats d'une mode qu'elle considère un peu comme trop conformiste. Les femmes aussi trouvent désormais que cette mode va être inadaptée à leur rythme de vie. Et donc le secteur de l'habillement va avoir un nouveau marché potentiel et promeut à travers le prêt-à-porter des tenues, disons, au style plus décontracté, moins formel. Et donc c'est dans cette branche-là que Chloé va se développer et va rencontrer un fort succès. Mais il faut, on le sait aussi, attendre vraiment les années 60 pour que le prêt-à-porter prenne son véritable essor, notamment avec l'affirmation du vêtement comme outil identitaire. Et c'est à ce moment-là, véritablement, que la haute couture ne sera plus le seul laboratoire de recherche et de création. Et le prêt-à-porter va prendre son autonomie pour aussi accompagner les femmes et s'adapter à leurs nouveaux besoins. Alors, Chloé, donc, je disais, se situe vraiment au cœur de ce lancement et de ce développement du prêt-à-porter. Donc, fondée, je le disais, par Gaby Aguillon, qui est égyptienne d'origine et qui s'installe à Paris en 1945 avec son mari, Raymond. Et elle lance sa toute première collection en 1952 avec 6 modèles. Alors, elle va vendre ses modèles dans des boutiques, enfin plutôt chez des détaillants, mais aussi des boutiques de maisons de couture vont lui acheter certains modèles. Et parallèlement, elle va diffuser certains patrons dans les magazines féminins. Et donc, avec ses premiers modèles, on entre déjà dans un champ de diffusion qui est double. C'est-à-dire, d'une part, elle se rapproche de la couture par la boutique, et de l'autre, elle tend à la démocratisation du vêtement, notamment par le patron et le prêt-à-porter. Alors, le premier défilé Chloé a lieu en 1956 au Café de Flore. Tous les défilés, à peu près jusqu'aux années 50, auront lieu dans des cafés de Saint-Germain-des-Prés. Et alors, Gaby choisit une forme de présentation des collections qui va être commune à celle de la couture, finalement, le défilé, avec déjà un aspect symbolique très fort, je trouve, dans le choix du lieu, qui va lier la maison à un certain art de vivre et qui la rattache aussi au milieu artistique et intellectuel germano-pratin. Alors Maïmé Arnaudin, qui est alors directrice de la publication Jardin des Modes, c'est elle qui fonde la rubrique Prêt-à-porter, soutient Gaby Aguillon et lui conseille de travailler avec Gérard Pipard. Gérard Pipard qui est un des tout premiers stylistes de Prêt-à-porter, mais qui vient pourtant de la haute couture. Alors Gaby Aguillon va vraiment comprendre que l'avenir de la mode réside dans ses stylistes et dans ses jeunes talents. Et c'est pour cette raison qu'elle va continuer comme ça à recruter toute une succession de stylistes. Et parmi eux, Karl Lagerfeld, qui pour sa première période va rester 20 ans chez Chloé de 64 à 84. Donc, dès ses débuts, je disais, Chloé prend part donc à cette démocratisation du vêtement de créateurs, notamment par ses collaborations avec des stylistes. Et ces vêtements vont alors être synonymes de modernité, de jeunesse et de confort. Et dès le départ, on s'est aperçu que les collections Chloé révèlent aussi une forme de porosité avec la couture, que je voudrais étudier selon différents axes. Tout d'abord, à travers les matériaux et la technique. Chloé va, dès ses débuts, collaborer avec des fournisseurs qui sont répertoriés dans l'annuaire Mandel du prêt-à-porter comme tissu couture. Et c'est un aspect qui va se renforcer avec l'arrivée de Karl Lagerfeld, qui va travailler aussi avec les soieries lyonnaises et les grandes maisons de broderie française. Et donc, il sera intéressant, finalement, de comprendre quels étaient les échanges, les modes de fonctionnement avec les fournisseurs, est-ce qu'ils peuvent se comparer à ceux de la haute couture? Et je pense notamment en termes de propositions artistiques entre les fournisseurs et Chloé. On en vient ensuite à la fabrication. Une des grandes revendications de Gaby Aguillon était la qualité de ses vêtements face à la confection. Donc il s'agirait de retrouver avec quels sous-traitants elle travaillait et dans quelles conditions. Et aussi quelle était la place de l'artisanat dans ses collections. Et je pense notamment à tous les vêtements qui sont peints sur soie à la main, la peinture à la main sur soie, et toutes les broderies. Dans cet esprit couture aussi, je pense qu'il serait intéressant d'étudier les modèles qui ont été réalisés par Chloé, mais en édition limitée ou en sur mesure pour une clientèle particulière. C'est un fonctionnement qui se rattache aussi plutôt habituellement à la couture. Et enfin, lorsque Karl Lagerfeld arrive et prend la direction de la maison, direction artistique pardon, de la maison en 1974, on va retrouver dans la presse féminine une forme d'aura autour du créateur qui va être identique à celle du grand couturier et qui donc, d'une certaine manière, va renforcer le système et l'image très couture de la maison. Alors voilà, j'ai essayé de vous donner un très bref aperçu hein, des liens un petit peu entre prêt-à-porter et couture, et notamment chez Chloé. Et donc j'en viens à mon objet de recherche, qui est le prêt-à-porter couture. Alors c'est parti d'un constat autour de la terminologie du prêt-à-porter, terminologie qui est particulièrement riche et diversifiée. C'est-à-dire qu'au fil des années, on va avoir un classement qui s'est établi entre les différents types de prêt-à-porter afin de les regrouper, disons, sous un terme qui serait moins générique et qui donnerait, à travers leur appellation, disons, un aperçu, une compréhension rapide de leur gamme. Donc, dès les années 60, dans la presse et dans l'historiographie aussi, on va avoir plusieurs typologies prêt-à-porter. Donc, on appelle le prêt-à-porter classique, de luxe, il va y avoir de style, de couturier, de création. De créateurs aussi, enfin, la liste est assez longue, mais finalement ces critères de définition et d'appartenance à chacune de ces catégories peuvent rester parfois un peu flous. Et donc à travers ce terme de prêt-à-porter couture, il ne s'agit pas tant de proposer une nouvelle catégorie, cette liste qui est déjà assez longue, mais plutôt de créer un corpus comparatif d'études, c'est-à-dire rassembler des collections ou des maisons qui, dès leur apparition dans les années 50-60, ont répondu à des impératifs industriels, typiques donc du prêt-à-porter, mais qui ont conservé aussi certaines exigences communes à la haute couture. Je pense notamment à la qualité des matériaux, la qualité du vêtement fini, à l'originalité, la créativité, et aussi à l'univers symbolique fort qui peut se créer autour d'une maison ou autour d'une marque. Et donc, ce terme de prêt-à-porter couture prendra le sens dans cette étude, finalement, de la rencontre de ces deux univers qu'on pourrait presque considérer comme antinomiques par essence. Et donc, il s'agira d'approcher cette relation, finalement, qui est ambiguë, donc à travers l'étude matérielle des collections, évidemment, qui se situe donc entre artisanat et production industrielle, et qui certainement soulèvera de manière sous-jacente la question du luxe et son rapport à la série. Alors, Pourtant, la limite est que l'attribution généralisée d'un critère couture ne peut s'adapter de manière systématique à chaque pièce dans chaque collection. Et c'est également cette non-constance que révèle ce terme de prêt-à-porter couture, c'est-à-dire une forme de dualité et une oscillation permanente entre plusieurs univers.
Pour finir, nous allons accueillir Lila Neutre, qui va nous présenter une communication intitulée « Pour la forme, attitude de résistance ».
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis photographe. Je travaille à la Parsons School où j'enseigne la photographie et aussi à l'école supérieure de photographie d'Arles où je m'occupe de la coordination des thèses de création. Je suis moi-même docteur en pratique et théorie de la création artistique et littéraire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette discipline de thèse qui existe depuis 2013 à l'université Aix-Marseille et dont le principe est d'ouvrir des doctorats de troisième cycle à des artistes. Donc moi, je l'ai soutenue en 2017 avec une thèse qui s'intitulait « Sculpter le soi, le corps social comme dispositif de résistance, l'apparence comme poétique de survie ». Et je l'ai effectué donc en photographie, non pas sur la photographie, mais en photographie et en sociologie. Voilà, avant de faire défiler les images qui fonctionnent comme un diaporama, un peu de toile de fond, j'aimerais bien vous expliquer d'où ce thème vient et surgit. Quand je commence la photographie, je suis étudiante à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Et je rencontre une dame qui s'appelle Carmel et qui a un petit livre, c'est un livre de jeunesse, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça a été une expérience fondatrice et qui a vraiment conditionné mon travail par la suite. Et donc Carmel est modèle de nuit académique et c'est une femme d'un certain âge qui pose avec un répertoire extrêmement classique, celui du nuit académique, plein d'emphase. Et je suis assez intéressée dès le début par l'oxymore visuel que produit l'utilisation de ses poses et son corps vieillissant. Et en même temps, très vite, quand je la photographie, je me rends compte que c'est elle qui fait les images, même si c'est moi qui suis derrière l'appareil. Et puis, en m'interrogeant sur cette question, je me rends compte qu'on fait un dessin, on fait une peinture et on prend une photo. Et que, au-delà de l'anecdote sémantique, il y a quelque chose du rapport de pouvoir qui s'établit entre le photographe et son modèle, modèle au double sens de la personne photographiée, mais aussi des canons de représentation. Et que souvent, on considère que le photographe est le vainqueur de ce rapport de pouvoir-là. Qu'on pense à la photographie ethnographique, à l'image volée, comme si le photographe prenait quelque chose. Et qui dominait. Et finalement, dans mon expérience avec Carmel, c'était vraiment l'inverse que dont j'ai fait l'expérience. Je me suis dit, finalement, je suis spectatrice, instance d'enregistrement presque, de sa performance. Et au départ, comme je vous le disais, c'est un travail de jeunesse, je voulais mettre en crise cette manière, cet aplomb qu'elle avait, et en essayant de donner une image peut-être un peu plus fragile, peut-être un peu plus la mienne de Carmel, sans jamais y arriver. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est peut-être là que réside mon intérêt, celui de considérer que la personne photographiée peut revendiquer sa place dans la construction de son image, mais aussi peut-être un rapport de domination inversé. Et donc je commence à m'intéresser à ce que j'ai appelé plus tard des professionnels de l'image, ou en tout cas des professionnels de leur image. Et donc ma thèse, j'ai travaillé avec 5 communautés sous-culturelles différentes. Donc ce travail-là s'effectue grâce à des rencontres avec certaines personnalités ou personnages même. Je pense que le terme de personnage est pertinent parce que finalement mon travail s'attache assez peu au parcours biographique et individuel de chacune des communautés ou de chacun de ses membres, mais bien à l'image de soi qui est donnée. Donc ces communautés-là, comme je le disais, il y en a 5. Il y a la SAP, l'acronyme de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il y a la communauté du voguing. On pourra en parler autour du verre qui suivra. Je vais pas m'étendre sur chacune d'entre elles. Elles sont passionnantes et complexes et mettent en jeu beaucoup de questions et de choses. Il y a le cosplay. Donc c'est une communauté qui regroupe la plupart du temps, ah oui, qui regroupe la plupart du temps des adolescents ou des jeunes adultes qui reproduisent les costumes de leurs héros, les costumes mais aussi les attitudes, les voix, vraiment dans un rapport d'imitation le plus fidèle possible. Il y a ensuite deux communautés qui s'intéressent à des, enfin, qui revendiquent des positions féministes, qui sont le roller derby et le cabaret new burlesque. Et donc, quand je commence à travailler avec ces communautés-là, je, au-delà de la virtuosité du geste et de ce travail d'imitation qui m'intéressait, je me rends compte qu'elles partagent, au-delà des apparences, quelque chose de très fort, qui est finalement une volonté politique, parfois militante, mais pas toujours, de rebattre les cartes qui sont celles distribuées à la naissance et qui seraient basées sur un capital socio-économique et culturel, et de s'inventer autre. Donc c'est vraiment la question du vêtement comme outil politique, outil d'invention de soi. Donc je ne sais pas si je fais de la recherche en mode, mais peut-être avec la mode ou à côté de la mode, pour reprendre une expression de Pierre Damien Huyck, qui a beaucoup écrit sur la recherche en art. Et je me suis rendu compte, en les côtoyant, qu'ils partageaient en fait un très grand nombre de choses. La créativité, l'esprit do-it-yourself, la rigueur dans l'invention de soi, c'est-à-dire que ces existences artistes sont régulées par un certain nombre d'assaises très 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 rigides. Toutes ces communautés-là naissent aux États-Unis, ont une sorte d'apogée dans les années 80, disparaissent quelque peu, ou en tout cas sont moins visibles, et puis renaissent autour des années 2000-2010, dans le monde, en France aussi, pour chacune d'entre elles. Et je me rends compte aussi qu'elles reproduisent un système pyramidal qui est pas mal basé sur le fonctionnement autour d'un système de concours, par exemple, un peu sur le modèle du concours d'élégance. Et peut-être que je peux parler un petit peu des images, parce qu'elles vous apparaissent mélangées. Je ne travaille plus du tout en série. Je pense que... il y a des choses que les images peuvent dire et que les discours ont du mal à exprimer, notamment la redondance des formes, leur collision, leur rencontre. Et finalement, mon travail, ça a été de tisser des liens, à la fois, dans l'étude des enjeux, des espoirs et des illusions parfois de ces communautés-là, mais aussi dans les images, et des images qui existent de plusieurs, qui ont plusieurs statuts ou plusieurs formes. Donc on peut peut-être en citer trois. Il y a celle-ci, des images des portraits en pied, où il y a toujours une attention assez forte portée au décor, et qui s'inspire un petit peu du portrait d'apparat. Ensuite, il y a des images de ce type-là, qui sont plutôt des plans américains, qui sont des images plus fugitives que je photographie au cœur des événements, les balls de voguing, les conventions de cosplay... Des choses plus ponctuelles, qui ne font pas l'objet d'un rendez-vous comme pour le reste. Et puis un dernier statut d'image, qui sont des images plus, où je suis plus proche, qui sont parfois recadrées, qui sont présentées encadrées, et qui fonctionnent comme une sorte de collection de gestes et de symboles, et qui se veulent être un petit peu des métonymies de ces communautés-là. Et finalement, le fait de les présenter ensemble, c'est ma manière à moi de dépasser un petit peu cette idée d'image au carré. Finalement, ce sont des pratiques de l'apparence qui sont enregistrées. C'est ça, cette idée d'image au carré, c'est l'image que je refotographie, donc je refais une image. Et finalement, créer une sixième communauté qui les englobe, ça me permet d'apporter un regard qui est le mien et qui est peut-être singulier, et qui, au-delà de rendre compte de ces pratiques, est aussi une volonté de les pérenniser. Elles ont été très souvent publicisées, très médiatisées, de manière éphémère souvent. Et c'est aussi une manière pour moi de rendre compte de ces existences artistes de manière peut-être un peu plus pérenne. Je crois que que l'art et l'émancipation fonctionnent un peu de la façon faite du même bois au fond et que c'est de la responsabilité des artistes, et je les considère comme des artistes, ces modèles-là, pour ouvrir de nouvelles voies, VOI et VOIX aussi. Voilà.
Quelqu'un a des questions ?
Bonjour, oui, c'était sur Chloé. J'étais très intéressée justement sur les frontières qui étaient très, très floues entre la confection, le prêt-à-porter, peut-être moins sur la haute couture. Est-ce que vous avez des archives sur les patrons que Gabi Aguillon ou Chloé avaient fait pour, j'imagine que c'était pour elle peut-être, ou pour le Jardin des Modes ?
Marie-Claire.
Pour Marie-Claire.
Voilà. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas sur cette période Jardin des Modes et elle, mais Marie-Claire, oui.
Donc c'était un patron de Chloé ?
Exactement, pour Marie-Claire.
Et qui était signé Chloé ?
Oui.
Ah, c'est intéressant, donc il y avait la petite étiquette.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc,
mais après, dans les autres, j'ai pas trouvé, et c'est vraiment sur une période qui est très courte, c'est-à-dire vraiment entre, je crois que c'était 54, entre 52 et 56, parce qu'après, à partir du moment où elle commence à faire des défilés, c'est quelque chose qu'elle ne fera plus.
D'accord.
C'est vraiment au tout début du prêt-à-porter qu'elle a trouvé ce moyen de diffusion aussi.
D'accord. Et ce terme, la terminologie, la réflexion sur la terminologie aussi, j'ai trouvé ça passionnant. Cette terminologie de prêt-à-porter couture, oui. c'est la vôtre ou c'est oui. quelque chose qu'on trouve
Alors,
à l'époque
pour être honnête, je l'ai vu, disons, trois fois dans des magazines féminins. Et toujours pareil, ça parlait de oui, ce modèle est déjà fait, mais le tissu est de très belle qualité. C'est justement pour vendre aussi ce prêt-à-porter. On commençait à parler vraiment de la qualité des matériaux et de la réalisation. Et voilà, c'est là que j'ai trouvé ce terme de prêt-à-porter couture, mais qui n'était pas entre guillemets officialisé. Et c'est ensuite que moi et mon directeur de recherche, on a pensé que cette idée, que ce terme symbolisait bien en fait toute la problématique. Du sujet.
Quelle a été la réaction de Chloé ? J'imagine que vous travaillez avec eux, avec la marque, justement sur la délimitation du champ de votre thèse.
C'est un projet qui a été fait effectivement en collaboration avec la directrice du patrimoine Chloé et qui était effectivement intéressée d'avoir un historique de la maison Chloé, mais aussi de l'insérer dans un secteur plus large, et à partir de là, je dois dire que je suis assez libre voilà, par rapport à la maison de trouver mon axe et de le choisir voilà, dans un travail, parce qu'ils veulent un travail scientifique et universitaire. C'est vraiment ça, ils veulent développer la recherche, une recherche fondée sur leurs archives. Donc je dois dire que je suis assez libre.
Bonjour. Du coup, c'est aussi par rapport à la maison Chloé une question. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et ce rapport exactement fait couture prêt à porter et aussi au niveau sociologique en parallèle. Ce qui peut, enfin, moi, je me demandais en fait justement le rapport de la maison à toutes les subcultures dont ils se sont inspirés aussi. Est-ce que ça peut être lié ? C'est vrai que je pense que c'est à peu près les premiers à faire des robes si larges, inspirées des communautés hippies, etc., et à mettre les subcultures en avant, tout en voilà, n'étant plus dans une démarche de démocratisation par le haut, mais dans le trickle cross, trickle...
Il va y avoir un peu un renversement, où on continue effectivement à avoir une certaine mode élitiste que va mettre un peu en place Karl Lagerfeld autour de Chloé, mais effectivement après il va y avoir tout un pan de la création Chloé qui s'attache énormément effectivement aux subcultures, et il y a aussi un autre virement à partir du moment où Stella McCartney et Phoebe Flo vont arriver. Voilà, c'est vraiment un autre tournant de la maison que je n'ai pas beaucoup évoqué aujourd'hui. Je me suis concentrée sur les premières années, mais oui, effectivement.
Ouais, non, c'est très intéressant. Et puis de voir aussi comment c'est en train de tourner là, depuis l'arrivée de Natacha.
Oui, voilà, c'est ça.
Bonjour, c'est une question pour Inès Jourde. J'ai adoré l'histoire. Je connais Notre-Dame de la Compassion, mais je ne connaissais pas les dessous de l'histoire. Est-ce qu'il existe des documents, un ouvrage, un livre sur la relation entre cette chapelle incroyable entre l'autoroute et le périphérique et la maison Saint-Laurent ? Est-ce que ça existe ?
En fait, pour l'instant, on est en train de, enfin, tout ça est en train de sortir, donc à l'occasion de cette exposition à New York, Donc on est vraiment au début d'un travail de recherche et d'essayer de compulser un petit peu les choses. Donc c'est vraiment le démarrage, hein, parce que ça s'est fait de manière tout à fait inattendue. Et donc on en saura plus par la suite. Mais pour l'instant, ce qu'il y a, c'est la robe, en tout cas. Voilà.
Formidable, merci beaucoup. Voilà.
J'avais une question pour Lila. Du coup, tu disais que tu avais fait ta thèse en photo et en sociologie. Du coup, comment tu as fait pour lier les deux comment ça s'est. Voilà, comment les deux disciplines ont cohabité ou émergé?
Ça me permet de faire une transition à pic sur l'objet qui est en train de circuler et qui est le livre d'artiste qui est la forme que j'ai voulu donner à cette thèse-là, dans lequel en fait les images habillent le texte qui est à l'intérieur. Ça a vraiment été un cheminement parallèle. À aucun moment je n'analyse sous une forme un peu autopoétique mon travail de photographe, mais la recherche en sociologie que je découvre, moi je suis un pur produit d'école d'art, donc j'arrive à l'université pour le doctorat et j'arrive dans un laboratoire de sociologie. Je précise que j'ai fait ma thèse sous la direction de Sylvia Girel et d'Arnaud Classe. Donc ce sont toujours des systèmes de codirection avec un artiste et un universitaire. Et ça c'est là par exemple quand pour donner un exemple très concret, je travaillais en série et c'est finalement la recherche en sociologie qui a mis au jour toutes ces relations entre ces communautés là et qui a opéré un changement drastique dans ma manière de présenter les images qui est tout à fait mélangé aujourd'hui et qui n'existe plus sous la forme de la division. Il n'y a pas non plus de légende, par exemple. Donc, en réalité, face aux images, certaines sont très facilement casables, mais d'autres sont énigmatiques dans le sens où je mettrais au défi quiconque de pouvoir nommer la communauté à laquelle cette image fait référence. Parce que d'une certaine manière, c'est aussi pour moi une façon de questionner par les images la question de l'efficacité subversive finalement de ces revendications par le style quand ils excèdent le cercle de la communauté pour s'adresser à des outsiders qui n'ont pas les codes, bien souvent pas les codes symboliques non plus et donc je crois qu'il y a vraiment eu des croisements qui se sont faits et la recherche en images et la recherche en sociologie se sont vraiment influencées l'une l'autre.